Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le gouvernement congolais a annoncé sa volonté de revisiter les contrats miniers liant la République démocratique du Congo aux différents acteurs de ce secteur qui exploitent les sous-sols congolais. D'après la ministre des Mines, cette révision se fera non par la force, mais avec le concours de toutes les parties concernées. Madame Antoinette Samba a aussi expliqué que la révision des contrats miniers vise à permettre à tout le monde de gagner, surtout à la RDC et à son peuple, qui doivent bénéficier directement des recettes des ressources minières. Quelle lecture faire de cette initiative du gouvernement congolais? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons Alkitenge, il est analyste économique et stratège. Bonsoir monsieur Alkitenge.
Bonsoir Guy Maté.
Jean-Claude Mputu, porte-parole de la plateforme Le Congo n'est pas à vendre, une plateforme qui regroupe une dizaine d'ONG nationales et internationales qui s'intéressent aux ressources naturelles et minières. Bonsoir monsieur Jean-Claude Mputu.
Bonsoir monsieur.
Et Franck Fouamba, il est fondateur et directeur général de la revue Mining News. Il est fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Il est également coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Bonsoir Franck Fouamba. Voilà, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Pour illustrer ce sujet, nous allons voir ce qui se passe dans le Sud Kivu où l'exploitation minière est gangrenée par la fraude et l'illégalité. Ce constat, Mossad, a été dressé par la ministre des Mines à la fin de son séjour de 2 jours dans cette province. Sont particulièrement visés les exploitants expatriés chinois œuvrant dans les sites aurifères à Mwenga. Comment expliquer que ces opérateurs exploitent en toute illégalité au vu au sud de tout le monde et que font les services miniers attitrés pour s'assurer de la bonne application du cahier des charges auquel doivent se conformer les opérateurs qui font l'exploitation minière industrielle? On écoute Cynthia Bachizi dans ses reportages.
La situation actuellement tendue dans le territoire de Mwenga, à Lougouchois, et pour cause, la population dénonce la présence de certains exploitants miniers chinois qui se comportent en hors-la-loi. C'est ainsi que les acteurs de la société civile locale haussent les tons. Ils exigent les droits de la communauté riveraine dans l'application du cahier des charges, tel que défini par le code minier. Le non-respect du cahier des charges est donc le nœud du problème. Lorsqu'il y a une cohabitation difficile entre la population locale et une compagnie minière, le cahier des charges est un ensemble d'engagements pris entre l'entreprise minières et les communautés locales pour la réalisation des projets de développement. Il vise à améliorer les conditions de vie des populations locales affectées par les activités minières. Le règlement minier est donc clair. Si une entreprise est déjà en phase d'exploitation, elle doit passer à l'élaboration de son cahier des charges le plus tôt possible. Ça c'est en théorie, car en pratique, la situation sur le terrain est tout autre. Ce que reconnaît le ministre provincial des Mines, Venant Bouroumé, rassure que des mesures sont prises pour recadrer tous les opérateurs miniers et assainir le secteur. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Merci à vous, Cynthia Bachizi. Alkitenge, je rappelle que vous êtes analyste économique et stratège. Cette émission est aussi pédagogique. On sait que beaucoup de concepts sont souvent utilisés lorsque l'on évoque une telle question. Dans les cas d'espèce, est-ce qu'il s'agit de la révisitation, de la révision ou de l'évaluation de la mise en œuvre des contrats en cours?
Je pense que votre question dans sa multiplicité impose une réponse méthodique. La première des choses, c'est d'évaluer toute la pratique minière en République démocratique du Congo, en ce compris les différents contrats, parce qu'un contrat n'est qu'un modèle économique qui a été mis en place. Et il est donc important de se rendre compte si ce que le code minier nous a promis a été mis en place. Et si ça a été mis en place, est-ce que ça a donné les résultats voulus pour les partenaires? Est-ce que ça a donné également les résultats voulus pour la République démocratique du Congo? Ici se pose toute la grande question de qu'est-ce que la République démocratique du Congo attendait du secteur minier. Et ici, très malheureusement, on s'aperçoit que la République démocratique du Congo n'a pas sa stratégie minière. La République démocratique du Congo ne s'est jamais dit comment elle voudrait être en mesure de mettre en application ses réserves minières. La première des choses qu'il faut remarquer, c'est que la République démocratique du Congo n'a pas assez d'énergie pour son ambition minière. Donc, elle aurait bien pu se déployer de manière méthodique et par période et par tranche, malheureusement. Deuxième faute, et elle est très grave, c'est d'avoir généralisé l'exploitation artisanale, j'ai envie de dire sauvage. Parce que très malheureusement, elle n'a pas donné, elle ne donnera pas du tout de résultats. La seule conséquence que cela a donné, c'est la visibilité sur le rural qui a été largement abandonné par l'État congolais, sur lequel se retrouvent tous les bandits, nationaux et internationaux, en train de faire des exploitations complètement illicites. Et je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, et son Excellence Madame le Ministre des Mines, ce qu'elle demande, c'est qu'on s'arrête à un moment donné, qu'on évalue et qu'on regarde ce qu'on doit être en mesure de redresser. Et que l'on appelle ça réévaluation des contrats ou renégociation de contrats, non, je pense simplement que la seule chose qu'il faut faire, c'est de comment redresser, de sorte que conformément au texte et règlement de la République démocratique du Congo, les partis se retrouvent.
Et qu'est-ce qui motive cette démarche du gouvernement? Est-ce que c'est les soucis de l'État congolais d'obtenir les nouvelles possibilités, n'est-ce pas, de maximiser ses recettes, comme cela est souvent dit dans les discours des dirigeants, ou il y a d'autres motivations, notamment des motivations politiques?
Je crois que nous devons, à un moment donné, remonter le niveau de notre analyse au niveau de la nation. Les ressources naturelles sont par définition épuisables. Donc un jour, nous devrons être en mesure d'expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants, qu'ici, il y avait des recettes, des ressources naturelles, et voici ce que nous en avons fait, voici ce que nous vous avons donné, votre héritage. Il est donc insensé de penser qu'on peut continuer à gaspiller de manière complètement inconcevable les ressources dont on sait qu'elles s'épuiseront pour qu'un jour on montre des trous à nos enfants en leur disant « ici, il y avait des ressources naturelles ». Je crois que c'est juste un sens de responsabilité qui ne doit même pas émaner simplement du gouvernement, et c'est pour ça que vous voyez mes deux co-débatteurs sont issus de la société civile qui se met debout en disant « il n'est pas question de gaspiller les ressources que Dieu nous a données ». Il faut donc les utiliser à bon escient pour que nous soyons responsables vis-à-vis des générations futures. Et les lois de la République sont organisées quant à ce, et très malheureusement mal appliquées et des fois combattues, y compris par nos propres opérateurs économiques, en ce compris la FEC sur la question de la responsabilité sociétale des entreprises, où il y a toute une réglementation, mais la FEC refuse de l'appliquer. Et je crois que là-dessus, il est important qu'on se rende compte que un moment d'évaluation est très important, évaluation documentaire, mais également évaluation de la pratique. Pourquoi je le dis? Parce que la plus grande faiblesse dans notre secteur minier, c'est la cohabitation entre les opérateurs économiques purs et les opérateurs économiques politiques. Le conflit d'intérêts permanent des hommes politiques dans le secteur de l'exploitation minière fait malheureusement que sous le régime Kabila, on a eu des catastrophes, et aujourd'hui la plus grande catastrophe, c'est les guerres, dont on se rend compte qu'il y a un lien incestueux entre les exploitations artisanales et la guerre. Mais la deuxième des choses, c'est que sous le régime en cours, les choses ne semblent pas s'améliorer, et il faut à un moment donné que la ministre des Mines tape du poing sur la table pour que les opérateurs politiques s'aperçoivent du besoin d'être sérieux et d'être professionnels dans leur métier et se distancier de ce secteur où on a besoin de beaucoup de discipline. Le manque de discipline dans le secteur minier est lié à la faiblesse des opérateurs politiques qui veulent s'impliquer dedans.
Si j'ai évoqué dans ma question les motivations politiques, c'est par rapport aux enjeux du moment sur le plan international. Hein. Nous sommes dans un contexte où les États puissants sur le plan économique et militaire se disputent les zones d'influence. Je vois ici les puissances occidentales d'un côté, à la tête desquelles vous avez les États-Unis, et de l'autre, il y a la Chine et la Russie. Évidemment, il y a aussi à côté les pays émergents. Monsieur Al-Kitenge, cette initiative du gouvernement congolais n'est-elle pas le reflet de cette lutte des grandes puissances?
Non. Il faut vous rendre compte d'une chose. Nous sommes détenteurs de beaucoup de réserves, de matières qui vont déterminer l'avenir du monde du point de vue économique et climatique. Et donc nous sommes dans ce qu'on appelle les enjeux géostratégiques. On a deux manières d'agir là-dedans. Si on a un plan pour servir toutes les parties prenantes, c'est nous qui avons les dés et c'est nous qui les distribuons. Dans le cas actuel, nous n'avons pas de plan. Alors les gens se battent sur nous. Nous subissons leur plan. Les Chinois tirent de leur manière. Les Américains et les Occidentaux en général tirent aussi de leur manière. comme la pelouse, on va subir. Et ce n'est pas raisonnable. Il est important qu'on s'aperçoive que nous sommes là, au centre des enjeux géopolitiques et géostratégiques et géoéconomiques importants. Il nous faut donc un plan de travail pour être en mesure de savoir comment nous allons interférer avec les uns et avec les autres. Sinon, nous allons subir les foudres de leur guerre. Et ça, c'est de l'intelligence collective, c'est de l'intelligence politique. Et je salue là-dessus Madame la ministre, parce que justement, elle dit « arrêtons-nous ». Il y a des choses visibles et il y a des choses invisibles. Si nous continuons avec ce niveau de contre-performance et d'absence de résultats et d'absence de visibilité, les gens vont continuer à se servir comme ils se servent maintenant, de manière tout à fait inacceptable, en provoquant le désordre. Comme vous le savez très bien, là où il y a le désordre, il est difficile d'avoir des performances durables. Et je crois qu'il est important qu'on retienne un mot, Guimaté, c'est la discipline. Le manque de discipline dans le secteur minier est du fait des opérateurs politiques qui se mêlent des activités économiques et il faut les dénoncer. Parce qu'à partir du moment où ils s'écartent de ça, il devient facile pour l'État congolais d'imposer la discipline à tout le monde, y compris à ces Chinois qui ne sont qu'en fait la partie visible des gens que nous ne voyons pas.
Vous insistez sur le terme discipline. La discipline implique la rationalité, la discipline implique une bonne méthodologie. Dans le domaine des mines, vous le savez plus que moi, c'est comme dans les hydrocarbures, les projets s'étendent sur des longues périodes. Il y a la phase de la prospection, l'exploration et l'exploitation, et tout cela nécessite beaucoup d'années. On parle souvent en termes de dizaines d'années. Monsieur Hall, est-ce que dans cette démarche telle qu'initiée par le gouvernement congolais, il n'y a pas risque de mettre en question certains contrats en cours d'exécution et de ces faits provoquer des frustrations chez certains investisseurs?
Mais le peuple congolais est déjà amplement frustré, donc si on frustre un petit peu les investisseurs aussi, il n'y a pas de problème. Toute la question dans le business, c'est ce qu'on appelle l'équité. Tout le monde doit trouver sa part conformément aux textes et règlements du pays. C'est très important. Ce n'est pas parce que vous avez investi de l'argent qu'il vous est donné le droit de pouvoir abuser de l'autre partie qui se trouve être la République démocratique du Congo et son peuple. Et donc, la justice est la seule chose qu'il faut être en mesure de mettre en place. L'équité est la seule chose qu'il faut mettre en place. Tous les pays du monde savent très bien qu'il y a trois facteurs qui déterminent la gouvernance. Un, la performance financière. Deux, la performance environnementale et climatique. Et aujourd'hui, l'équité qui induit l'absence totale de fraude et de corruption. Aujourd'hui, l'une des choses sur laquelle on doit être en mesure de mettre de la clarté, c'est le fait que certaines entreprises, y compris des très grandes, tripatouillent avec les chiffres pour cacher ce qu'elles doivent à la République démocratique du Congo. Ce genre de choses, il faut les mettre au clair. Et la ministre des Mines a dit lors de l'État généraux, elle a dit, est-ce qu'il est logique que les entreprises publiques échouent de manière cyclique là où les entreprises privées réussissent? Et quelle est la magie qu'il y a là-dedans? Y compris lorsque nous sommes dans des partenariats ensemble avec les entreprises publiques et les entreprises privées. Comment expliquer que ces entreprises ne font pas autant d'argent que cela a été promis dans le cadre de la structuration des contrats? Comment expliquer que même dans ces cas-là, l'État congolais ne se retrouve pas? Donc à un moment donné, je vous le dis de manière assez claire, la difficulté c'est que nous avons des opérateurs politiques qui sont malheureusement impliqués dans ces entreprises et s'emploient à protéger les partenaires étrangers. Et je pense que nous n'avons absolument rien contre les étrangers. La seule chose qu'on dit, et elle est très, très importante, c'est que le business doit se faire avec intégrité et l'intégrité induit la transparence.
Merci Franck Fouamba, est-ce que vous êtes là?
Je suis Lagu.
Voilà, je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général de la revue Mining News. Vous êtes fondateur aussi de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Et quelle lecture vous faites de cette initiative du gouvernement visant à réviser les contrats miniers?
Merci Guy. Salut Al. Je pense que Al a dit l'essentiel. Je vais faire de la redondance. C'est du déjà vu, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le gouvernement doit cesser de vaguer à vue, dans le vide. Aujourd'hui, quelle est la vision que l'État congolais, à travers le gouvernement, a de ses ressources naturelles, a de son secteur des mines? Zéro. Il y a des textes sur papier que l'on n'a jamais appliqués. Que fait la République démocratique du Congo de la vision africaine minière? Zéro. L'initiative est prise, c'est du déjà vu. Sous Kabwelulu, il y a eu révisitation des contrats miniers ou révision des contrats miniers pendant des années. Et les quelques modifications qu'il y a eu, c'était grâce à la pression de la société civile. Pourquoi? Il ne faudrait pas que l'on prenne une décision politique comme à le fustige, là où il faut une solution technique. Je suis d'accord que l'on s'arrête. Je suis de ceux-là qui soutiennent qu'il y a certains contrats qui doivent être revus après évaluation.
Franck,
mais à ce jour, oui, Guy.
Oui, s'il faut revenir sur certains concepts qui sont souvent utilisés lorsqu'on parle d'une telle démarche, on a toujours qualifié les contrats que nous avons signés avec les miniers comme étant des contrats léonins. Je l'ai dit au début de l'émission que c'est une émission aussi pédagogique. Qu'est-ce que vous appelez contrat léonin? Et comment en est-on arrivé là? Comment un gouvernement souverain a pu, de façon délibérée, accepter de signer des contrats alors qu'il savait consciemment que c'était des contrats léonins?
Ok. D'abord le contrat léonin. Dans le contrat, dans le mot léonin, il y a le mot latin léo. Le grec aussi, il y a le léo, le lion. Ça veut dire que ce sont des contrats dans lesquels une partie se donne la part du lion. Disons qu'aujourd'hui, nous disons que les contrats sont déséquilibrés parce qu'il y a des partenaires qui ont eu la part des lions. Quand nous prenons, nous retournons à la signature de contrat. Le premier contrat qui a été signé, c'est le contrat TFM. Et tout le monde doit savoir que le contrat TFM, c'est un contrat qui a été signé de gré à gré avec une entreprise canadienne qui n'avait pas la capacité en 1996 sous Kengo et sous Mobutu. La guerre était là en train de venir, il fallait signer ce contrat-là. Et il y a eu d'autres contrats qui ont été signés, dans lesquels les gens font les promesses d'apporter des capitaux. On en a vu avec le groupe Forest, avec M. Georges Arthur Forest, qui était PCA de Gécamy et qui s'était donné les mines de Kamoto, par exemple. Ce qu'il a apporté, c'était la promesse d'apporter de l'argent. Et on sait comment Forest a fini par céder Kamoto, les régissements de Kamoto à Glencore. Comment nous sommes arrivés là à un gouvernement souverain? C'est ce qu'Allah dit, politisation du secteur. Aujourd'hui, il y a des ambassadeurs qui font pression, dont l'ambassadeur américain. Mais le contrat TFM, s'il n'est pas un bon contrat, c'est un contrat dans lequel les États-Unis, quand il y avait Freeport-McMoRan, quand il y avait First Dodge, ils n'ont jamais voulu que le contrat soit revu. Et le contrat TFM, c'est un contrat dans lequel on s'est vu pendant la transition, implication politique, on a vu les parts qui appartenaient à l'État congolais minorées. Il n'y a que Jean-Pierre Bemba et les autres qui peuvent nous expliquer comment, parce que Jean-Pierre Bemba était président de l'Ecofin, comment ça a été minoré. Il y a Ingele Ifoto qui est là. Il y a des gens qui étaient là, qui peuvent nous expliquer. Il ne faut pas politiser le secteur. Aujourd'hui, je soutiens ce qu'Allah dit et c'est ce qui est vrai. On doit commencer par réévaluer les contrats. Vouloir revoir les contrats sans avoir évalué, c'est vouloir se foutre la balle dans le pied et c'est vouloir jouer politique sur pression de certaines ambassades. Pendant la révisitation des contrats miniers, il y avait trois grands contrats sur lesquels la société civile voulait qu'il y ait révision et les ambassadeurs ne voulaient pas. Il y a le contrat TFM, l'ambassadeur des États-Unis et toute la diplomatie ne voulait pas. On connaît la suite comment l'ambassadrice Melissa West, à un moment, s'était retrouvée directrice chez TFM. Nous prenons le contrat Glencore. Avec le contrat KCC. À un moment, les Suisses ne voulaient pas. Et il y avait le contrat KMT avec First Quantum, où les Canadiens ne voulaient pas. Et aujourd'hui, à un moment, il y a des contrats, tout ce qui a contrat avec Chinois, c'est l'ambassadeur de Chine qui s'élève. L'initiative est bonne, mais on doit commencer par le début. Quelle est la vision que nous avons de notre secteur? Que voulons-nous de notre secteur? Les contrats aujourd'hui, est-ce qu'on les a évalués avant de dire on s'arrête? Et puis, on s'arrête pour évaluer, d'abord, afin de le voir. Où on s'arrête, on dit, on doit revoir parce qu'il y a certaines officines ou certains laboratoires qui ont déjà dit, non, voilà, il faut revoir tel contrat, tel contrat.
Voilà, et s'il faut revenir à cette question de réforme du code minier en mars 2018, c'est une réforme, n'est-ce pas, qui avait suscité beaucoup d'espoir. Il y a des experts, hein, comme vous, qui avez soutenu le fait qu'à travers cette réforme, la RDC était en train, n'est-ce pas, de reprendre le contrôle sur son patrimoine minier. Ce qui devait permettre, n'est-ce pas, au gouvernement de profiter des richesses produites par l'exploitation de ces mines. Et 3 ans après la révision de ces codes miniers, peut-on affirmer que la RDC a pu profiter des bénéfices produits par l'exploitation de ces mines?
Aucun produit escompté, à part la collecte de quelques taxes sur les super profits, quand les prix des matières premières montent. Mais apparemment, il n'y a aucun investisseur sérieux qui est venu. Il n'est pas venu parce qu'aussi, avec le nouveau code, le code et le règlement minier qui ont été revus, nous avons le problème du législateur. Le législateur, quand il vote les lois, il est censé suivre l'application de ces lois-là. Je me demande si réellement le Parlement représente les intérêts du peuple congolais ou représente les intérêts des lobbies politiques. La loi minière, elle a été là, Guy. En principe, à chaque session parlementaire, la Commission ressources naturelles et de l'Assemblée nationale et du Sénat devaient convoquer le gouvernement pour faire l'état des lieux. Ne parlons pas seulement des investisseurs qui devaient venir. Nous avons la problématique de 0,3% du chiffre d'affaires. Ça fait 3 ans que cet argent-là chôme chez les miniers parce qu'il y a le ministre des Affaires sociales et le ministre de Mines qui ont pris 3 ans pour ne pas s'entendre sur une matière qui a été bien réglementée par le code minier. Nous avons le problème du législateur. Nous avons le problème du gouvernement à ne pas appliquer les lois. Le législateur à ne pas contrôler le gouvernement parce que c'est du clientélisme politique. À ce jour, disons que le code minier a été revu. On a dit que nous allions gagner et la société civile avait joué un très grand rôle. Malheureusement, aujourd'hui, les produits escomptés ou les fruits escomptés, les résultats escomptés ne sont pas arrivés. Ce n'est pas à cause du code. C'est à cause de ceux qui doivent l'appliquer, le règlement. C'est à cause aussi à cause de ceux qui doivent suivre. Et aussi à cause du notre climat des affaires. Le code a été fait, il a été révisé pour que l'on gagne. Mais nous trouvons la RDC aujourd'hui, elle se trouve dans la zone africaine de libre-échange. Avec quelle taxation? Avec quelle fiscalité que l'on impose aux investisseurs? Tout ça, ça fait que ça devient une pesanteur aussi sur le code. Il y a une excuse, Guy. Al l'a dit. À quoi sert notre secteur? Devons-nous produire les minéraux pour les voir exporter ou devons-nous produire les minéraux pour les transformer sur place? Aujourd'hui, l'économie congolaise, la RDC gagnerait en transformant certains minéraux sur place. Nous sommes aujourd'hui là, c'est la révolution technologique, c'est le vert. Aujourd'hui, avec nous avons le lithium, nous avons le cobalt. Tout le monde cherche ces produits-là pour fabriquer les batteries. Il y avait une initiative avec la dame qui est DG de l'ARED, l'Agence pour la régulation de l'électricité, Sandrine Mubenga. Elle était en train de travailler avec l'Institut Mutoshi à Kolwezi sur le financement de Gécamine pour qu'on commence à produire localement des batteries avec le cobalt local. C'est ça, on doit travailler sur ça. Les miniers diront qu'il n'y a pas l'énergie. Moi, personnellement, j'ai dit le gouvernement devait trouver un terrain d'entente avec les miniers pour voir, ok, il n'y a pas d'énergie. Dans les investissements, est-ce qu'on peut prévoir qu'il y ait des micro-centrales hydroélectriques? On va me dire non, ce n'est pas le travail des entreprises minières. Je vous informe, ou bien vous le savez, que toutes les centrales qui existent au Katanga sont les centrales Gécamine et non pas les centrales Estelle. Ce n'est pas de la SNEL.
Merci.
C'est Gécamine. Merci. Et Gécamine pour produire avec de l'énergie. Et aujourd'hui, Kibali Gold Mine, par exemple, Kibali Gold Mine a investi dans le coût d'investissement de 2,9 milliards ou 2,8 milliards ou 3 milliards, il y a les centrales qu'ils ont construites pour produire de l'énergie afin de faire fonctionner la mine. Donc il y a des questions qui doivent être résolues afin de permettre au code minier de produire le fruit.
Merci Franck Fouamba, nous allons vous redonner la parole. Jean-Claude Mputu, porte-parole de la plateforme Le Congo n'est pas à vendre, une plateforme qui regroupe une dizaine d'ONG nationales et internationales qui s'intéressent aux ressources naturelles et minières. Quelle vous inspire cette initiative du gouvernement visant la révisitation des contrats miniers?
Bonjour et merci pour la parole. Je voudrais dire merci à M. Kitenge et à M. Fouamba pour leurs interventions respectives. Moi, quand j'ai entendu cette initiative pour la première fois, ça m'a inspiré deux choses. La première, une satisfaction pourquoi? Parce que ça fait partie des choses que le Congo n'est pas à vendre, ainsi que toute la société civile congolaise réclame depuis longtemps. Faire en sorte que les contrats, les richesses du sous-sol congolais puissent profiter aux Congolais. Ça, c'est la première chose, la satisfaction. La deuxième chose, une certaine inquiétude. Inquiétude pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que le gouvernement congolais annonce le processus de révisitation. Et en attendant aussi bien Al, aussi bien Franck maintenant, je perds, est-ce qu'on va vers une répétition? Parce que finalement, le processus a déjà eu lieu par le passé, mais aujourd'hui, quelques années plus tard, pas très longtemps, on reparle encore de la révisitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, les premiers processus n'ont pas marché. Pourquoi ils n'ont pas marché? Ben, aussi bien Al que Franck pointent les pouvoirs politiques. Et à ce niveau, pour moi, il y a trois responsabilités, clairement. La première, c'est la responsabilité gouvernementale. Pourquoi nos institutions, pourquoi ceux qui nous dirigent ne sont pas capables de mener un processus dans le respect de la loi, de mener un processus dans l'intérêt de la population, de mener un processus où on puisse voir les fruits dans les temps et d'une manière durable pour les générations futures, l'a mentionné Al Kiteng. Deuxième chose, c'est la responsabilité internationale. Internationale dans le sens où beaucoup l'ont dit, il y a des pays qui, pour au nom de leurs intérêts, font des pressions ou s'y portent des entreprises qui ont une conduite qui est totalement illégale et qui sont contre les intérêts du peuple congolais. Mais encore une fois, là aussi, c'est la capacité du gouvernement congolais de dire non ou de négocier. La troisième responsabilité, elle est celle que je dirais de toute la population congolaise, de la société civile et de tous les acteurs congolais qui doivent, comme un seul homme, se lever pour dire il est temps que nos gouvernants soient au service de la population. Il est temps que les richesses produites dans notre pays puissent profiter à notre pays. Il est temps que nous arrêtons tous de vendre le Congo pour des intérêts étrangers et pour des personnalités qui se servent elles-mêmes au lieu de servir le Congo.
L'on a toujours dénoncé l'interférence de certaines institutions financières internationales lorsqu'on envisage une telle démarche, vous venez de le dire, et Franck l'a aussi relevé. Monsieur Jean-Claude Mputu, qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire pour ne pas tomber dans les erreurs du passé, en évitant notamment les dictats de certains partenaires extérieurs, hein? Vous avez dit qu'il est de la responsabilité du gouvernement congolais de dire non ou de négocier, mais on dit souvent, c'est ce qu'on nous reproche, hein, est-ce que nous, le gouvernement congolais va dans ces négociations en position de faiblesse? Est-ce que vous pensez que, compte tenu des besoins que nous avons beaucoup d'urgence, n'est-ce pas, à solutionner, vous pensez que nous sommes en mesure aujourd'hui de tenir tête à ces institutions et de dire non?
Ma réponse serait tout de suite oui. Nous sommes en mesure de dire non si nous avons la volonté politique d'y arriver et si nous mettons en œuvre l'ensemble des moyens. À la répéter, le Congo regorge des ressources aussi bien humaines, techniques que naturelles. Ça veut dire quelque part que nous avons la clé de nos richesses. Un exemple qui est frappant et qui révèle cette incapacité. Tous nous avons suivi et nous continuons à commenter les reportages réalisés par M. Foucault sur l'exploitation illégale de nos richesses. Ce qui est grave dans ces cas de figure, c'est que aussi bien les gouvernants, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de surveiller l'espace national, ceux qui ont le pouvoir de condamner, ceux qui ont le pouvoir de protéger nos richesses, s'étonnent en disant, mais comment des étrangers peuvent exploiter nos ressources et pas nous? Mais quand j'entends ça, moi j'ai l'impression de rêver, parce qu'il leur appartient à eux de faire afin que ce genre de choses n'arrivent pas. Et ces Chinois, ces exploitants illégaux, ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont devant nos tribunaux? Est-ce qu'ils sont devant nos juges pour rendre compte? Rien de tout cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour résister, il faut que nos dirigeants, il faut que notre gouvernement soit en mesure, veuille nécessairement, contrôler et faire le travail qui est le sien, c'est-à-dire protéger notre territoire, protéger nos ressources pour le bien de notre nation. Deuxième chose, le gouvernement, s'il veut être efficace, s'il veut être respecté dans ce genre de discussions, il doit commencer par s'appuyer sur ses propres lois et sur son propre peuple. Or, qu'est-ce que nous observons? Dans tous les processus de révisitation, les discussions se font d'une manière très opaque. Parfois, les parlementaires ne sont même pas au courant. La société civile n'est même pas au courant et donc le gouvernement va négocier en secret pour des avantages souvent personnels destinés aux opérateurs politiques et non dans l'intérêt du Congo. Troisièmement, prenons des cas concrètement du processus en cours. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que l'annonce de cette mesure et la commission qui a été créée par la présidente. Or, la loi congolaise et la société civile congolaise a écrit officiellement à la présidence pour le dire. Cette matière ne relève aucunement du pouvoir, du droit de la présidence. C'est une matière qui relève du gouvernement, des ministres des mines et des ministres des portefeuille. En quelle qualité et sous quel justificatif c'est la présidence qui met en œuvre une commission pour traiter de ces problèmes, alors que les institutions sont là, chacun avec ses compétences? Donc on voit déjà que les processus partent déjà sur des mauvaises bases.
Merci.
Parce qu'on ne respecte pas la loi, et en ne respectant pas la loi, on a perdu sa position parce que les intérêts sont divers. Troisième élément dans ces mêmes cas de figure, et c'est la revendication de la société civile congolaise, dans ces processus de révisitation, on n'a pas de cahier de charges clair. Quels contrats vont être révisités et sur quelle base? Elle a répété, a insisté sur un élément essentiel, il faut faire une évaluation. Nous ne sommes pas en mesure de dire quelles sont nos différentes réserves. Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer jusqu'où ces réserves peuvent être utilisées. Nous ne sommes pas en mesure de dire quelle est notre politique nationale, quelle est notre stratégie pour gérer le cobalt, pour gérer les diamants, pour gérer l'uranium, pour gérer le lithium, des minéraux essentiels pour la vie.
Merci Jean-Claude Pontou.
Donc quelque part, encore une fois, et je terminerai par là, on met la charrie avant le bœuf. Au lieu de réfléchir en amont sur ce que nous voulons, sur ce que nos ressources peuvent nous apporter, nous commençons par dire, par mettre en avant, par cibler quelques entreprises,
merci,
quelques contrats, sur quelle base, nous n'en savons rien. Donc il est essentiel de faire les choses dans la transparence, dans le respect de la légalité et avec une volonté ferme de réussir pour le bien du Congo et non de mettre de l'argent de côté pour des opérateurs économiques et politiques comme par le passé.
Merci. Nous allons maintenant passer au point de vue des auditeurs hein, qui sont en train de vouloir aussi donner leur point de vue afin de contribuer à ces débats. Monsieur Alkitenge, vous allez réagir à la réflexion de cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Politologue Patien Diamungu Rukuba depuis la ville province de Kinshasa. On peut passer de révision à révision, mais tant que le gouvernement continue à être le protecteur des personnes qui font des mafias dans ce secteur, notamment les différents acteurs miniers, en complicité avec les acteurs gouvernementaux, il n'y aura pas changement dans ce secteur. Je pense que cette volonté des gouvernants actuels de vouloir réviser les contrats actuels n'est rien autre qu'une main noire voulant satisfaire les multinationaux qui n'étaient pas contents de l'actuel contrat nous laissé par le régime passé consacrant les bénéfices de l'exploitation minière aux Congolais. Cette révisitation n'est donc pas opportune. Elle est plutôt suspecte.
Alkitenge,
je respecte énormément le point de vue de notre compatriote Patient Biamungu. Il dit une chose et son contraire, malheureusement. Il dit que les contrats actuels n'ont pas marché simplement à cause du conflit permanent d'intérêts des hommes politiques dans cette exploitation minière. Ceci est donc un point de faiblesse notoire qui détermine le peu de résultats que nous avons. Après, il relève une suspicion peut-être légitime en disant « Est-ce que les dirigeants actuels peuvent-ils faire la différence ou vont-ils répéter exactement la même chose ?» Moi, je lui dirais « Donnons le bénéfice du doute au gouvernement en place, à Madame la ministre des Mines qui a évoqué cette question et mettons sa sincérité à l'épreuve pour voir quels seront les résultats qui en sortiront. » Et ici, je voudrais justement épingler un rôle extrêmement important qui va au-delà des opérateurs politiques. C'est nous, la société civile. Nous devons atteindre une masse critique capable de mobiliser la population, financer nos organisations de la société civile et ne pas les laisser financer par des opérateurs extérieurs, sinon on va les influencer. Être capable de nous mobiliser par millions de Congolais pour être aux côtés de nos dirigeants. Si nous laissons nos dirigeants tout seuls, ils vont se faire écraser par les multinationales et par les opinions internationales et les gouvernements internationaux qui sont riches et forts. Et donc cette mobilisation me semble d'une importance capitale.
Alkitenge, vous accordez les bénéfices du doute, mais vous ne pensez pas qu'il est tout à fait normal que les gens commencent à s'inquiéter lorsqu'on constate certains faits, et parmi ces faits, vous avez suivi Franck Fromba qui évoque un aspect important, le fait qu'on n'a pas encore assaini le climat des affaires dans ces pays. Et vous avez suivi M. Jean-Claude Mputu qui parle de cette commission, n'est-ce pas, qui a été mise en place, mais qui est mise en place par la présidence, la commission qui va, n'est-ce pas, piloter cette question des revisitations des contrats miniers. Et ce qui est contraire, n'est-ce pas, à la loi. Vous avez suivi aussi M. Jean-Claude Mputu qui dit que nous avons des difficultés pour évaluer nos réserves. Est-ce que vous ne pensez pas que déjà, avec tous ces facteurs-là, il y a lieu de pouvoir s'inquiéter?
C'est pour ça que j'ai dit que Patient Biamungu avait une suspicion légitime et je la respecte. Maintenant, je voudrais revenir sur mes très brillants co-débatteurs, Franck et JC, qui disent les choses de manière très claire et très pertinente. Il faut savoir que la direction d'un pays relève de la population qui en délègue les pouvoirs aux dirigeants politiques. À aucun moment, il ne faut laisser les politiciens seuls au front. C'est des gens qu'il faut surveiller en permanence. C'est comme ça que l'opinion publique américaine détermine qui vient au pouvoir. C'est comme ça que certaines lois et certaines réglementations en Europe changent parce que les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord. Regardez aujourd'hui les difficultés qu'il y a à imposer le vaccin. Les populations se mettent debout et disent « donnez-nous des informations ». Tout autant que la question est importante, tout autant il est important de donner l'information aux citoyens parce que les citoyens sont très importants. Et donc le pouvoir réel, il est entre les mains des citoyens. On doit arrêter de se plaindre. Nous devons garder la surveillance sur la dame ministre des Mines pour qu'elle fasse le travail selon les règles de l'art. Nous devons trouver des mécanismes pour empêcher des gens qui font des actes en dehors de la réglementation. Il a évoqué la question d'un groupe initié à la présidence pour aller faire le contrôle dans une entreprise minière. C'est anormal. Il faut être en mesure de le dire. Et il faut pousser le chef de l'État à stopper ça. Et ça, je pense simplement que ça ne relève pas de ce qu'on appelle le cadre de l'assainissement du climat des affaires. Ça relève de l'absence de la compétitivité de la nation. Vous savez, la compétitivité de la nation relève du fait que nous avons la capacité d'envoyer nos enfants dans des écoles viables qui forment des citoyens de grande compétitivité, mais nous avons également la capacité d'avoir l'argent nécessaire pour organiser la couverture santé universelle, et nous avons la capacité d'avoir des infrastructures qui améliorent la compétitivité économique du pays. C'est ça notre défi. Notre défi n'est pas d'avoir des ressources naturelles, c'est d'avoir un pays qui marche bien pour tout le monde.
Merci. Franck Fouamba, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Le maître junior Tshisekedi Kazima depuis la ville de Kisangani, c'est inconcevable que mon pays passe les contrats dans lesquels une partie ne se retrouve pas dans son exécution, alors que les contrats a un caractère synalagmatique, ce qui voudrait que toutes les parties qui ont manifesté l'intention de se faire lier juridiquement se retrouvent dans l'exécution des dix contrats. Je suis d'accord que ces contrats soient demandés pour permettre à la RDC à se retrouver et le cas échéant, son peuple, j'ai dit.
Franck Fouamba.
Je comprends le souci de maître qui appelle depuis Kisangani. C'est légitime ce qu'il dit, c'est ce que Allah a dit, c'est ce que Jissé a dit, c'est ce que je dis, c'est que la société civile dit. Nous sommes d'accord qu'il faut revoir les contrats, mais nous disons qu'il y a un process à suivre. Je partage ce qu'il dit, mais je répète ce que mes co-débatteurs ont dit, que nous devons faire les choses, et je viens de le dire, selon les règles de l'art. Vous avez Guy et l'ami de Kisangani. Si nous allons, nous parlons même des états généraux de la ministre de Mines, mais c'était du cinéma, du théâtre, où les grands acteurs du secteur, dont ceux de la société civile, n'étaient pas associés. C'était une histoire boutiquée qui s'est passée là-bas à l'hôtel du gouvernement pendant quelques jours, où il y avait déjà des conclusions, alors qu'on devait faire le diagnostic, le vrai, le sérieux du secteur, afin de tirer les conclusions. Retournons dans le secteur. Il y a Al qui a dit, il y a JC qui a dit, même c'est que lui vient, il est de la province orientale. La grande orientale, elle est connue pour l'or. Que dit madame la ministre de Mines, que dit le gouvernement sur Sotimo par exemple. Une société qui a au moins 15 partenariats, et sur les 15, il n'y a qu'un seul partenariat, Kibali Goldman qui fonctionne, et les autres qui détiennent les gisements. À propos de la Sotimo, qui est AGN, le nouveau régime donné à une certaine entreprise AGN des gisements, n'eût été la société civile, ça serait une catastrophe. Le gouvernement ne s'intéresse par exemple qu'à la GECAMINE. En même temps, à quelques kilomètres de la GECAMINE, il y a la Sodimico, l'ancienne Sodimisa. Qu'en pense le gouvernement? Le gouvernement s'intéresse à la GECAMINE, à quelques kilomètres dans le Lualaba. Il y a Kiseng et Manganèse. Qu'en pense le gouvernement? Il y a Congo Étain, il y a la Cominière, il y a la Sakima. Revoyons les contrats, oui, mais faisons-le dans le règle de l'art. Évitons que nous puissions soupçonner, comme JC a dit là. On doit nous éviter certaines choses. Que ça ne soit pas des choses politiquement motivées. Il y a ce que nous, peut-être ce que les amis n'ont pas dit et ce que je vais dire. Vous savez, c'est pas facile de revoir un contrat minier. Il faut l'avoir bien évalué et se servir des outils qui existent. Je me demande si le gouvernement sait qu'il y a un rapport confidentiel de la Banque mondiale qui soutenait la révision du code et du règlement minier et qui soutenait même la révision de certains contrats miniers. Je ne sais pas si le gouvernement le sait. Le rapport date de 2016. On doit faire le vrai état des lieux. Amener les gens du secteur, la société civile. Merci. Et surtout l'Assemblée nationale, le Parlement.
Ok, merci, nous avons compris. Jean-Claude Mpoutou, vous allez aussi réagir à cette réflexion de cet auditeur qui est en train de nous appeler de la ville de Goma, au Nord Kivu.
Voilà, je suis Moïse Andu depuis la ville de Goma, au Nord Kivu. Tout en saluant cette bonne volonté politique de l'actuel gouvernement congolais, qui Wari Orsa, j'aimerais a priori rappeler que la même attitude a été affichée par un régime passé cher au président Joseph Kabila Kabongé. Cette dernière n'a pas produit des résultats escomptés. Il faut savoir des aspects très fondamentaux dans cette affaire. Primo, le gouvernement n'a pas été à mesure de déployer tous les réseaux matiers dans ces 10 secteurs, malgré toutes ses intentions. Secondo, certaines sociétés minières étatiques font un relais discret et clandestin avec certaines grandes puissances et industriels étrangers sans aucune traçabilité et parfois pas même que le gouvernement ne soit au courant.
Monsieur Jean-Claude Mpoutou, votre réaction?
Merci, merci beaucoup à, aux compatriotes de Goma Moïse pour cette intervention. Je pense que vous dites les mêmes choses que nous. La première chose, c'est notre satisfaction face à une initiative qui, si elle respecte nos lois, qui, si elle respecte les règlements, qui, si elle est portée par une volonté réelle de changement, de transformation, peut apporter des résultats durables. Au premier abord aujourd'hui, il y a beaucoup plus de raisons de douter que de croire. Comme je l'ai dit, la première initiative ne respecte déjà pas la loi. Il n'y a aucune transparence. La société civile, qui est un acteur important dans les secteurs, n'est pas associée. Donc on se retrouve déjà au moment où les prémices ne sont pas bonnes. Quitte à fait qu'aujourd'hui, le gouvernement qui nous attend, la ministre qui hier a visité différentes sociétés minières dans les Katanga, qui aujourd'hui encore a été abordée par certains acteurs de la société civile à Lubumbashi, pour lui remettre un cahier des charges de la société civile sur le souci de la transparence, quitte à fait qu'aujourd'hui, ils prennent leur courage à main et se disent, revenons au départ, respectons les processus, commençons par évoluer, commençons par définir une politique juste, commençons par dire quels sont les contrats que nous allons revisiter et pourquoi, et associons tout le monde. L'un des points qui pose problème, c'est qu'on a beau revisiter des contrats, j'ai trouvé qu'il y a eu des magouilles, qu'il y a eu de la corruption, qu'il y a eu des tournements, mais il y a l'absence des sanctions. Et l'impunité est une sorte de prime qu'on donne pour que les mêmes erreurs se répètent.
Monsieur Jean-Claude Poutou, nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de la fin?
Mon mot sera merci à Radio Okapi et surtout appel à la vigilance de la part de la société civile, car la corruption tue et si on ne fait pas attention, notre pays continuera à être vendu. On n'en a pas besoin.
Al-Kitenge, les recommandations à l'endroit du gouvernement pour que les processus qui viennent d'être enclenchés ne puissent pas connaître les mêmes résultats que ceux du passé. C'est votre conclusion aussi.
La première des choses, c'est qu'il faut informatiser l'information minière pour qu'on sache qui fait quoi et où, combien, et ça c'est très important. La deuxième des choses, c'est que les ressources naturelles nous appartiennent à nous tous. Il faut que la société civile se mobilise pour que ceux qui ont le destin en main en matière de gestion minière soient en mesure de protéger les intérêts de la nation. Et pour ça, je voudrais simplement insister sur le fait que la tentation est très grande et donc il faut aider les gens qui sont en gestion.
Merci, Monsieur Franck Fomba. Votre conclusion?
Le secteur des mines n'est pas que Gécamine, comme j'ai dit. Hein. Je veux bien que le gouvernement nous dise ce qu'il pense des Sokimo, des Kisenge Manganèse, des Sodimiko, des Cominières, des Nasakima. Voilà. Les amis ont dit, hein. Faisons les vrais états généraux du secteur des mines. Répensons, ça ne sert à rien de revisiter ou de revoir, d'évaluer. Pour les mêmes choses, nous avons besoin de penser à la transformation, à donner à nos minéraux la valeur ajoutée sur place. C'est alors que ce pays décollera. Sinon, on ira de révision en révision, révisitation en révisitation, et ce sont les autres qui vont aller tirer profit en donnant de la valeur ajoutée. Répensons notre politique minière. C'est ce dont nous avons besoin avant de revoir les contrats.
Merci, merci à Al-Kitenge, à Franck Fouamba et Jean-Claude Poutou d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à Hippolyte Kapanga qui était à la technique, à Kéline Kouté, Dona Madimba et Michel Loutete qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sabou-Jangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.